RFI. Accent d'Europe.
Catherine Guilliardi. Bonjour, Accent d'Europe donne la parole aujourd'hui à ceux qui se sont engagés pour une cause qui n'était pas la leur. Portrait d'Européens impliqués dans des actions humanitaires au Bénin et en Sierra Leone. Ils portent des jupes et ça leur fait du bien. Catherine Potet a rencontré les fondateurs de l'association Hommes en Jupe. Beethoven y trouvait refuge de son vivant. Un château hongrois fête ce mois-ci 50 ans de festival consacré aux compositeurs allemands. Et notre chronique jeune vous fera découvrir un site internet qui a mis en ligne les premiers films du cinéma. En Allemagne, de nombreux étudiants choisissent de partir dans un pays du Sud pour participer à un projet humanitaire. Le programme européen GLENJECO, Global Education Network for Young Europeans, propose ainsi des bourses de mobilité pour mener des projets solitaires à l'étranger. Lily Mittendorf est étudiante à Berlin. Elle se prépare à partir en mission au Bénin dans le cadre d'un programme visant à apaiser les tensions entre éleveurs et agriculteurs. Eva John l'a rencontrée pour nous.
Berlin, Düsseldorf, Tripoli, Cotonou, puis de Cotonou jusqu'à Kogunou, en bus, parce que le train vient de tomber en panne, il ne fonctionne plus.
Dans quelques jours à peine, Lily Mittendorf va s'envoler pour le Bénin. Depuis février, l'étudiante berlinoise de 26 ans se prépare pour un voyage humanitaire de 3 mois dans le nord du pays. Pour cette grande brune, un peu timide mais très souriante, c'est la dernière ligne droite cette semaine. Les vaccins contre l'hépatite A et B sont faits. Il ne lui reste plus qu'à photocopier tous les papiers indispensables avant le grand départ.
Alors il y a d'abord mon assurance, l'assurance pour les bagages, un passeport, mon billet d'avion, mon carnet de vaccination, le visa bien sûr, et puis un article sur les conflits au Bénin que j'ai trouvé très intéressant et que je veux absolument emmener avec moi.
Passionnée par l'Afrique, Lily a postulé il y a maintenant un an auprès de l'organisme allemand ASA. C'est une amie qui lui a fait découvrir ce programme de séjour pour les jeunes européens. Lily a pu obtenir une bourse qui couvre les billets d'avion et les frais sur place. Elle s'est engagée à assister au séminaire de préparation du projet et à assurer un suivi en rentrant en Allemagne.
Les séminaires de préparation sont une étape nécessaire où l'on se pose les bonnes questions. Quel rôle vais-je jouer là-bas? Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'y aller? Quelle image du pays ai-je en partant? On a forcément une vision très eurocentriste en arrivant et il faut pouvoir se débarrasser de nos jugements. Je pense que c'est fondamental.
Sur place, Lily travaillera avec un étudiant français qui participe lui aussi au programme. Ils analyseront ensemble le conflit qui oppose depuis des années les agriculteurs et les éleveurs du Bénin. Une histoire que Lily connaît déjà très bien.
La principale raison pour laquelle ces deux groupes sont en conflit, c'est le manque d'espace. Et ce problème ne fait que s'aggraver à cause de la sécheresse entraînée par les changements climatiques. Les éleveurs migrent de plus en plus vers le sud. Tandis que les agriculteurs étendent de plus en plus leurs champs de coton vers le nord. Du coup, au nord du pays, ces deux groupes se disputent les mêmes terres.
Ce voyage au Bénin, Lily ne l'a pas choisi par hasard. À Berlin, elle étudie la géographie et la géologie, et tout ce qui concerne l'homme et l'environnement lui tient particulièrement à cœur.
Ce qui m'intéressait au départ, c'était d'étudier la relation entre l'homme et le paysage. Le conflit au Bénin illustre complètement ces questions d'interaction. Comment peut-on utiliser le sol? Quelles sont les ressources disponibles? Quels sont les effets de changement climatique? Et comment tout cela s'articule? Je trouve ça vraiment passionnant.
Un sujet tellement passionnant que Lily a déjà prévu d'écrire sa thèse dessus à son retour. Pour elle, pas question d'étudier la situation de loin. Il fallait forcément être sur place et rencontrer les différents acteurs du conflit.
Ce conflit s'est développé au fil des années et pour le comprendre, il faut être sur place. On ne peut pas vraiment l'analyser ici. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'être là-bas, sur place.
En attendant, Lily n'a plus qu'à mettre toutes ses affaires dans sa valise et à rêver du Bénin pour les quelques jours qui lui restent à Berlin.
humanitaire hors du commun pour Sander de Kramer, un Néerlandais de 34 ans. Il est parti en Sierra Leone libérer des enfants qui travaillaient dans les mines d'or et dénoncer de ce fait un esclavage moderne. Un portrait signé Didier Burg à Amsterdam.
Ce combat contre l'esclavage des enfants dans les mines d'or de Sierra Leone, Sander de Kramer l'a commencé voici plusieurs années. Ce journaliste de 34 ans en est à son quatrième voyage dans ce pays africain, s'avérant l'un des plus pauvres de la planète. Jusqu'à présent, toutes ses tentatives ont été vaines. Déjà sur place depuis plusieurs semaines, son ambition est d'arracher cette année une centaine d'enfants à ses chantiers d'une rare puanteur. Son objectif, les placer dans des institutions où ils pourront avoir une vie normale. Ses enfants travaillent jusqu'à 14 heures par jour contre une simple poignée de riz, s'insurge-t-il. Avec l'aide de l'écrivain Hugo Borst, Sander de Kramer mène son action humanitaire dans le cadre de son association dénommée Sander Foundation. Son combat se focalise surtout sur la Sierra Leone, un pays qui a connu une guerre civile de plus de 11 années. De fait, l'espérance de vie des adultes ne dépasse pas 34 ans et un enfant sur trois meurt avant l'âge de 3 ans. Un grand nombre se retrouve d'ailleurs orphelin dès la petite enfance. Particulièrement démunis, ils se laissent alors amadouer par des rançonneurs pour quelques pièces. Ensuite, ils deviennent corvéables à merci auprès de toutes sortes d'esclavagistes. Si son combat contre ces petits esclaves des mines est resté vain jusqu'à présent, il a toutefois des victoires à son actif. Sander de Kramer est ainsi venu en aide à des jeunes devenus amputés après avoir sauté sur une mine. Certains d'entre eux sont même venus aux Pays-Bas participer à des matchs de football. Des rencontres qui se sont avérées un tremplin pour faire connaître son action humanitaire aux autres.
Les jeunes européens. Jeunes européennes.
La chronique des jeunes européens.
Good evening, ladies and gentlemen. This is the Globe Walker speaking, bringing you strange news and
I... Под топлото южно поднебие на Македония, къде што природата била со шепера, и човекот од озле полини и плани...
But the eye of the camera never lies.
Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour Catherine.
Alors ce qu'on vient d'entendre, ce sont des extraits de très vieux films du monde entier. Un site internet dont vous allez nous parler aujourd'hui a mis en ligne gratuitement, en tout cas donne accès gratuitement à ces vieux films. Ça s'appelle Europa Film Treasures pour trésor.eu. C'est une véritable médiathèque sur internet, Gaëlle.
Oui, hein, ce site c'est un grenier à merveilles pour les mordus de cinéma classique. Et en plus, hein, vous le disiez, c'est gratuit. On y trouve des films anciens, parfois insolites, datant des débuts du cinéma de 1898 à 1970. Ce sont des films rares, hein, sous-titrés en 5 langues, anglais, allemand, italien, espagnol et français, des westerns, des comédies, de la science-fiction, des animations, des reportages et même des films érotiques. Tous ces trésors sont visibles en streaming, hein, c'est-à-dire en lecture simple, ça veut dire que vous ne pouvez pas les télécharger.
C'est quand même extraordinaire. Et qui a eu cette bonne idée ?
C'est un projet européen. 28 institutions ont collaboré en puisant dans leurs archives centenaires, en dépoussiérant leurs vieilles bobines pour les mettre sur le net. Le Musée national du cinéma de Turin, par exemple, l'Institut britannique du film, la Filmothèque espagnole de Madrid, celle de Belgrade, de Macédoine, de Moscou, ou encore les archives du cinéma de Prague. Le projet est financé par Média 2007, le programme européen de soutien au secteur audiovisuel.
Alors comment est-ce que je peux avoir accès à tous ces trésors? Comment ça fonctionne?
C'est très simple à utiliser. Vous tapez europafilmtreasure.eu. Là, une cinquantaine de pellicules sont à votre disposition. Reste à choisir celle qui vous intéresse. Puis, vous cliquez sur « Voir le film » et ça tourne. Chaque bobine a une fiche technique avec un résumé, un topo sur le metteur en scène, sur les acteurs, le contexte historique. On peut aussi faire une recherche par critère, par période, par nationalité, par genre, un documentaire, un drame ou un western. Par tirage aussi, noir et blanc, couleur, peint à la main, teinté, chromé.
Très précis, hein.
Par son, muet ou sonore, oui, c'est très précis. Enfin, par titre, par réalisateur ou par acteur.
Et c'est une vraie mine d'or. Donnez-nous des exemples.
Alors, je suis tombée par exemple sur l'un des premiers westerns de l'immense réalisateur hollywoodien John Ford. Le film s'appelle Bucking Broadway, à l'assaut du boulevard. Il date de 1917 et en fait, il a été miraculeusement retrouvé par un collectionneur en 1970. Pendant 9 mois, la pellicule a été restaurée par les archives françaises. Aujourd'hui, il est à votre disposition. À l'écran, on découvre une horde de cow-boys galopés sur Broadway au milieu des grands immeubles et des automobiles. Surtout, ne le ratez pas.
Et puis alors, il y a des documentaires aussi.
Oui, notamment Les Derviches, un documentaire macédonien en noir et blanc de 1957 sur les étranges pratiques d'une secte les plus anciennes du monde musulman, la secte Rifai. Versailles. Prosternés, ses fidèles lancent des incantations de plus en plus rapides, de plus en plus sonores. Ils entrent en transe, se lèvent et forment un cercle côte à côte. Ils se balancent d'un pied sur l'autre en frappant des percussions. Spectacle assez impressionnant.
Oui, ça a l'air vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, il y a des films un peu extravagants aussi.
Oui, par exemple, La guerre aérienne du futur de Water Air Booth, un ancêtre des films de science-fiction sortis en 1909, où la Grande-Bretagne est attaquée non pas par des extraterrestres, mais par une armée de montgolfières, à voir surtout pour les effets spéciaux utilisés à l'époque. J'ai aussi regardé ce film d'animation plutôt loufoque de Charlie Bowers, Believe It or Not, Croyez-le ou non, de 1935, avec des cacahuètes acrobates, des poules qui pondent des voitures, un homard joueur de xylophone sur des airs jazzy, c'est complètement dingue.
Complètement, oui.
Enfin, l'incroyable The Apple Knockers and Coke, les pommes amortisseuses ou La bouteille de coca, un film érotique anonyme réalisé en 1948 où un sosie de Marilyn Monroe flirte avec la caméra une bouteille de Coca-Cola à la main.
Donc ils ne sont pas seulement vieux, mais ils sont vraiment originaux, ces films, sur ce site. Et il devrait y en avoir de plus en plus avant la fin de l'année.
Là. Une centaine d'ici la fin de l'année et 5 fois plus à l'horizon 2012. Le site accueillera bientôt des contributions d'historiens et de professionnels et même des commentaires d'internautes. Une adresse web à ajouter immédiatement à vos favoris.
Et vous nous rappelez l'adresse, justement?
Alors, c'est europafilmtreasure.eu. Europafilm, comme ça se prononce, treasure, T-R-E-A-S-U-R-E-S.eu.
Treasures, il y en a plein, des trésors. Merci Gaëlle.
Europa. Europa.
En France, des hommes militent pour le droit de porter la jupe en toutes circonstances. Pour revendiquer cette liberté, ils ont même créé une association Hommes en Jupe, H-E-J. Pour ceux qui connaissent. Elle compte une trentaine d'adhérents depuis un an et Catherine Potet a rencontré Dominique Moreau, le président de cette association, ainsi qu'Éric, son vice-président. Éric a 30 ans et Dominique a 39 ans. Il est marié et père de deux enfants. Pour lui, le port de la jupe est une longue histoire.
J'ai emprunté furtivement les jupes de ma maman. Donc, au bout du compte, elle ne l'a su que très tardivement, un quart de siècle plus tard.
Donc c'était déjà un petit peu tabou?
Ah oui, tout à fait. Hein. Pendant ces 25 ans, j'ai gardé le silence. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Et on se pose des questions, évidemment. On oscille toujours entre un sentiment de culpabilité et puis une envie de le faire. Et au bout du compte, avec en plus des connaissances un petit peu plus étoffées après vis-à-vis du passé, vis-à-vis de l'ailleurs, eh bien, on se dit, pourquoi pas. Pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, les hommes ont porté des jupes, des robes, ça ne posait pas problème. Aujourd'hui, dans le monde, en Asie du Sud notamment, des dizaines de millions d'hommes portent des jupes, on a des vêtements ouverts aussi du côté de l'Afrique avec les djellabas, donc c'est quand même une restriction vestimentaire en ce qui concerne les vêtements ouverts qui est un peu propre à l'Occident.
Alors Éric, vous, comment est-ce que vous avez eu l'idée de porter des jupes?
Alors en fait, moi, c'était dans mon adolescence où je voyais les filles qui ont beaucoup de chance de porter des jupes quand il faisait bien chaud. Et c'est plus tard, dans l'âge adulte, où je commençais à me renseigner sur le kilt. De fil en aiguille, je suis arrivé sur la jupe pour homme, et ça a commencé comme ça.
Et c'est un mode vestimentaire qui vous convient parfaitement?
Complètement, ça change, ça m'a changé vraiment beaucoup de sensations de liberté et de confort.
Donc pour vous, le choix est fait. Est-ce que c'est facile à faire admettre par son entourage?
Alors c'est très très difficile. Dans la famille, c'était très complexe. En essayant d'expliquer un petit peu, ils l'admettent, mais bon, c'est vraiment parce que je suis leur fils qu'ils acceptent.
Laetitia, vous êtes la compagne d'Éric. Est-ce que vous avez accepté facilement qu'il porte des jupes?
Non, pas tout à fait au départ, puisque j'étais très très surprise. Donc après, on en a beaucoup discuté. C'est vrai que j'ai vu beaucoup plus heureux en étant à l'aise que d'être dans quelque chose qu'il n'aimait pas.
Après, il faut affronter avec lui le regard des autres finalement aussi.
Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'au départ, c'est pas évident, mais on vit pour nous, on vit pas pour les autres. Donc l'essentiel, c'est que nous, on soit heureux. Si les autres n'aiment pas, c'est leur problème.
Dominique, pour vous, ça a été difficile de le faire accepter par votre entourage, le port de la jupe?
Oui, bien sûr. Hein, au début, celle qui allait devenir mon épouse était très réticente, mais petit à petit, elle s'est bien aperçue que mon style que je revendiquais, c'est un style masculin. Alors au début, je sortais seul à l'extérieur, puis elle a accepté de sortir avec moi en étant sur les lieux de vacances, et puis ensuite, elle est sortie avec moi à l'endroit où l'on habitait, et puis petit à petit, après, elle a accepté que je me présente comme ça devant ses parents.
Donc c'est quand même assez lourd.
Ah ben c'est un processus de plusieurs années, au bout du compte.
Alors il y a un tabou infranchissable pour le moment, c'est le milieu professionnel. C'est impossible de porter une jupe dans son milieu professionnel, Eric ?
Oui, effectivement. Moi, je travaille comme ingénieur et dans mon milieu, c'est costume-cravate. Aujourd'hui, vraiment, c'est le mur à franchir, le mur à casser pour justement acquérir la liberté qu'on souhaite.
Pour vous aussi, c'est la même chose, Dominique ?
Oui, c'est la même chose, effectivement. Mais rien n'est impossible. Hein. Petit à petit, peut-être que l'on cassera cette conception monolithique du masculin, notamment dans le domaine professionnel où il s'agit d'avoir un homme fonctionnel, un homme performant. Eh bien, les femmes ont très bien prouvé qu'elles pouvaient être performantes en étant en jupe sur le lieu du travail. Hein. Pourquoi est-ce qu'un homme en jupe ne serait pas performant dans son domaine professionnel? Il serait complètement stupide de penser qu'un homme perdrait sa masculinité en portant une jupe. Hein.
Ce qu'il faut préciser, c'est que vous portez des jupes qui sont faites pour des hommes.
Voilà. Oui, moi, c'est ma démarche, effectivement. Alors, pour certains hommes, ce n'est pas le cas, parce que les jupes pour hommes sont très, très chères.
Alors, aujourd'hui, précisément, vous portez une jupe. Vous pouvez la décrire un peu?
Voilà, c'est en fait une jupe qui descend juste en dessous du genou, qui a un aspect kilt modernisé.
Alors, aujourd'hui, donc, vous portez cette jupe. Vous avez pris le train avec, vous avez pris le métro avec. Est-ce qu'on vous a dit des choses? Est-ce qu'on vous a regardé?
Oui, effectivement, encore dans le train, ce matin, bon, il y a un petit groupe de jeunes de 25 ans qui a eu des sourires très complice, mais jamais très explicite. Hein. On n'ose pas faire les choses franchement. Bon, mais ça, on peut s'y attendre. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas trop s'arrêter. Hein, parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une démarche nouvelle qui peut intriguer. Après, nous, on suit notre bonhomme de chemin en toute confiance.
Kilomètres de Budapest, le château de Martonvásár était un lieu très apprécié par Beethoven. Il y aurait composé ses œuvres les plus célèbres. Et depuis 50 ans, des concerts dédiés au compositeur sont donnés tous les mois de juillet dans le parc du château. Florence Labruyère.
Le château de Martonvásár est un lieu romantique à souhait. C'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que le comte Brunswick achète des terres marécageuses dans la région. Il les fait assécher et cultiver et crée aussi une tannerie sur ce vaste domaine où il se fait bâtir un château en 1775. De style baroque, le château est entouré d'un vaste parc qui sera redessiné à l'anglaise en 1810. Ami de la famille Brunswick, Beethoven fait de nombreux séjours au château, où un petit appartement lui est réservé. Il aime se promener dans les jardins, et c'est ici, à Martonvásár, qu'il aurait écrit la Passionata, dédiée à son ami, le comte Peter Brunswick. Peut-être inspiré par la beauté de Joséphine Brunswick, il y aurait aussi composé la sonate au clair de lune. Aujourd'hui, le lieu n'est plus celui que Beethoven avait connu. À l'édifice baroque a succédé un joli château néo-gothique en 1870, qui appartient à l'Académie des sciences. C'est dans le grand parc, sous l'œil d'un buste géant de Beethoven, qu'ont lieu les samedis musicaux de l'Orchestre Philharmonique Hongrois, jusqu'à la fin juillet. Le samedi 19 juillet, l'orchestre interprétera la symphonie numéro 8 et le concerto pour piano en ré de Beethoven, avec le chef d'orchestre Zoltán Kocsis à la baguette. Le 26 juillet à 19h, ce sera la symphonie numéro 5 et surtout la messe en ut majeur avec le chœur national hongrois et la merveilleuse soprano Ilona Tokodi. Cette année, pour fêter le 50e anniversaire de la création de ces soirées musicales, avant le grand concert du soir, l'orchestre philharmonique donnera des concerts gratuits en matinée. Un conseil, arriver suffisamment tôt au château de Martonvásár pour visiter le petit musée consacré à Beethoven.
C'était Accent d'Europe, une émission coproduite aujourd'hui par Radio France Internationale et la Deutsche Welle, avec le soutien du programme Euranet. Réalisation François Porcheron, mise en onde Nicolas Doreau. Demain, la prise en charge des enfants autistes.